Évangile de Marc, chapitre 4, 9 versets de cet évangile. J'appuierai ma prédication sur les textes que nous avons entendus au cours de la liturgie et puis sur ces quelques versets. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il les enseignait longuement, en paraboles, et leur disait dans son enseignement : Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais, quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, qui croissait. Un grain en rapportait 30, un autre 60. Et un autre cent. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cantique numéro 190, Roi des anges, les quatre strophes de ce cantique. Roi des anges, nos louanges iraient-elles, montent-elles jusqu'à toi ? nous prions. Oui, Dieu notre Père éternel, c'est toi-même que nous demandons à toi. C'est la lumière sur notre sentier dont nous avons besoin. Donne-nous d'être chacun conscient de cette lumière reçue et reflétée. Ta présence ou ton absence sévit ou c'est mort pour moi. Mais que ta grâce, dans chaque cœur, fasse régner ce roi de gloire qui nous conduit sur des chemins nouveaux de vérité. Frères et sœurs, chers amis, chers grands et petits amis, au cours de la liturgie, nous avons relu le récit de l'Évangile apportant la nouvelle à un homme qui s'intéresse au sens de sa vie et qui vient pour cela interroger Jésus. Vie éternelle, manière de vivre, capacité de se débarrasser de ce qui encombre et enfin nécessité, vocation de suivre Jésus. Voilà un programme posé. Je retiens l'idée que suivre Jésus, c'est cela la grande affaire. Alors peut-on dire pourquoi lui plutôt qu'un autre? Pour moi, la réponse est simple. Il est celui qui prêche la parole. La Bible nous le présente comme le porte-parole de Dieu notre Père et le présente aussi comme étant lui-même, dans sa personne, la parole elle-même. Aujourd'hui, par la lecture de la Bible et ses beaux récits et ses belles histoires et ses paraboles, nous avons tout loisir de venir à lui, exactement comme de la même manière que est venu cet inconnu pour l'interroger. Dans ce contact intime, personnel, nous avons lu Jésus le fixa et l'aima. Il vit tout de suite ce qu'il est. C'était nécessaire de le voir se libérer dans sa vie et de le suivre. Les quelques versets que nous venons de lire dans l'évangile de Marc nous présentent une situation un peu différente. Ce n'est plus un dialogue intime, personnel, mais une prédication devant la foule, une foule immense qui presse, qui entoure Jésus, à tel point que Jésus monte dans une barque qui fait un peu figure comme cette chair, de chair amarrée, et de là il enseigne, et il prêche en racontant des histoires, ces histoires connues sous le nom de paraboles. Et à ce moment-là, c'est le récit du semeur qui sortit pour semer.
Chers amis, prêcher,
ça n'est pas autre chose que semer. Semer la parole,
semer dès l'aurore,
dès le matin, semer l'espérance, semer les graines du royaume de Dieu.
Offrir à la foule
le don
de la fécondité.
Lui expliquer, par comparaison, que sa terre, toute sa terre, peut être ensemencée. Et comme nous le savons tous, une terre ensemencée est une terre qui voit croître, germer la plante,
embellir la plante,
c'est-à-dire
porter du fruit. Le semeur
est un serviteur un peu particulier, car la semence qu'il sème lorsqu'il est prédicateur,
ce devrait être, ce pourrait être, et c'est une grâce de Dieu quand ça l'est,
de
semer
la parole de Dieu. Je me souviens qu'au cours de mon ministère commencé à Lyon, il y avait une chaire dans un des temples de la ville sur laquelle, comme sur le petit rebord qui m'est proposé là, sur laquelle était gravé à l'intention de tous les prédicateurs qui passaient par là les mots suivants: prêche la parole, avec un point d'exclamation. Et dans cette même ville où j'ai commencé mon ministère de pasteur, sans l'être tout à fait, l'est-on jamais, dans cette même ville, mais cette fois dans les basses fosses des prisons de Saint-Paul et de Saint-Joseph, le culte commençait, il y avait parfois beaucoup d'étrangers, et les détenus d'origine africaine me chantaient avec une vraie conviction, tous en cœur, « Dis-nous l'Évangile, pasteur !» Alors, après de nombreuses années de prédication, ce qui fait quand même une belle quantité de dimanches, et d'autres moments où le pasteur, humblement, avec ses qualités et ses limites, a tenté de semer cette ineffable parole, il est en droit de se demander ce qu'il est advenu de son ministère. La parole piétinée que les oiseaux du ciel viennent manger parce qu'elle tombe au bord du chemin, c'est l'exemple qui est donné. La parole tombée dans les pierres, elle a pourtant poussé, mais par manque d'humidité, la voilà qui sèche. La parole tombée au milieu des épines, c'est facile à imaginer, elle pousse, mais les épines ont la vie dure et elle l'étouffe. Alors j'ai pensé à tous ces lieux improbables, tous ces terrains éphémères, et j'ai un peu tremblé sur la perte de temps, sur la perte d'amour, sur la perte de vie que pouvait entraîner une telle dispersion de la parole. Et je me suis dit, pourquoi le semeur de l'Évangile ne part pas d'abord à la recherche de la bonne terre? C'eût été plus simple, ce que n'importe quel paysan est capable d'imaginer. Pourquoi ce semeur est-il à ce point dispendieux? Et j'ai essayé de me donner une réponse à moi-même. Celle que j'ai retenue est au fond que le propre de la dynamique de la parole de Dieu, c'est précisément la générosité. Assez comparable d'ailleurs à la richesse de la nature, qui a des ressources immenses et qui pourtant aujourd'hui, il nous faut apprendre à ne pas gaspiller. Ce semeur étonnant qui laisse sa semence jusque dans les lieux improbables, c'est alors un semeur avisé, car il sait, il connaît les infinies possibilités du Créateur, à qui de cette façon-là, rien n'est impossible.
car la bonne terre, il en fait, lui, son affaire. Aucun sol résistant ne peut s'opposer à la puissance de sa grâce. Et nos relations à Dieu peuvent parfaitement être illustrées par ces sols que l'on pourrait dire mauvais, inappropriés ou résistants. La parole que nous laissons en marge de notre vie, au bord du chemin, que nous laissons piétiner, au fond, les oiseaux du ciel en feront leur affaire. Rien n'est perdu. La parole que refusait de recevoir notre cœur endurci, Dieu aussi peut lui donner le pouvoir de changer ce cœur desséché, ce cœur pierreux. La parole qui tombe dans les épines qui nous étouffent, il peut aussi nous en libérer. Ainsi, la parole qui tombe dans la bonne terre, ce n'est pas le fait de notre qualité congénitale, mais c'est la conséquence de nos oreilles ouvertes. Le texte commence par « écouter » et le texte se termine par « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». La bonne terre, chez nous, est la conséquence d'avoir des oreilles ouvertes. La terre est fécondée par notre capacité d'écoute et notre vocation sans cesse renouvelée par Jésus. En matière de foi, nous prenons très souvent les choses à l'envers et il faut les prendre, chers amis, à l'endroit. Ce n'est pas nous qui nous élevons vers Dieu par nos qualités ou par nos quelconques mérites, même si nous en avons, mais c'est lui, comme nous venons de le chanter, qui s'abaisse jusqu'à nous. C'est lui qui nous rejoint, c'est lui qui nous propose de jouer avec lui, avec nos frères et nos sœurs, le jeu de la vérité et d'accepter qu'il fasse lui-même de chacune de nos vies, toutes petites ou en maturité, des terres fécondes, dont la croissance à ce moment-là est extraordinaire. Retenez ceci, chez nous, la bonne terre vient des oreilles. Ainsi, les privilégiés qui ne doivent faire aucun effort pour que ça pousse chez eux, sont ceux qui ont des oreilles et qui ont, je vais employer un terme très évangélique, qui ont rencontré Jésus. L'attitude de cet homme qui va lui parler doit, à un moment de nos vies, être la nôtre par l'Écriture. Alors j'en viens à parler un peu de moi en ce culte extraordinaire, malgré tout. Et j'étais, moi aussi, un semeur. Personne n'est propriétaire de la parole et l'angoisse du prédicateur est d'avoir pu redouter d'avoir été quelquefois un écran à la parole, de l'avoir en quelque sorte retenue ou par peur ou pour lui ou par complaisance, d'avoir fermé ses propres oreilles à cette parole du Christ qui se présente lui-même et nous l'avons confessé comme le chemin, comme la vérité, comme la vie. Du Christ par tout l'Évangile, mais c'est aussi du Christ, c'est vers le Christ que tout revient, si nous nous souvenons qu'il est le crucifié, ressuscité et le vivant. Dans le livre de l'Apocalypse que nous avons étudié cette année, nous voyons combien le culte chrétien que nous vivons ici est en écho avec le culte céleste. Et nous voilà nombreux en ce dernier culte
pour, a-t-on écrit, me dire au revoir.
Et moi, je ne dis pas comme ça.
Aujourd'hui, je vous dis adieu.
Mais je l'écris en deux mots.
Adieu, afin de pouvoir vous confier tous à sa grâce. Le proverbe dit que partir, c'est mourir un peu. Alors aujourd'hui, nous ne vivons pas vraiment un service funèbre, puisque j'ai la chance d'être avec vous et que nous sommes tous bien vivants ce matin. Mais devant la réalité de ce qu'il faut bien appeler la fin d'un temps, l'échéance d'une responsabilité que nous avons partagée ensemble, le début de ce nom étrange me travaille, retraite. Et je me souviens de l'enterrement qui s'est passé dans ma famille il y a quelques années, où mes cousins accompagnaient leur mère à sa dernière demeure terrestre. Ils étaient plusieurs enfants et l'un disait sa reconnaissance pour tout le chemin de vie qu'il avait partagé avec la présence de sa mère dont il avait bénéficié, et il était calme et serein. Mais, disait-il, c'est quand je vous vois tous là, réunis pour ce départ, c'est en vous regardant tous que j'ai du mal à contenir mes larmes. Et je comprends aujourd'hui ce qu'il voulait dire. Nous avons ici, dans ce temple de l'oratoire ou ailleurs, partagé des moments de la vie qui étaient d'une intensité particulière, des joies profondes et heureuses, comme ce matin où nous avons célébré un baptême. Que de baptêmes d'enfants ou d'adultes ici même. Mais comment ne pas évoquer aussi les mariages, ces temps où l'on s'aime, ces temps où l'on s'engage, ces temps où l'on partage. Comment laisser aussi sous silence une pensée pour tous ceux qui nous manquent, qui sont morts et dont l'absence nous blesse encore. C'est aussi cela la vie d'un pasteur, d'un semeur. Mariage des amis Ngoma samedi, baptême de ma petite fille Eda qui me comble de joie, et culte d'action de grâce demain, ici même, pour Jean Delannoy. Chaque moment de vos vies ont été des moments de ma vie. Chaque étape de confiance renouvelée dans la foi et à une place plus grande faite dans la vie, à la présence de Dieu par la parole, ont été des occasions de reconnaissance, de louange. Alors pour en terminer, pour aujourd'hui, au risque même que vous pensiez que je suis porté par un étrange orgueil, je me sens autorisé, en vous gardant tous au fond de mon cœur. Oui, je me sens autorisé à dire, en faisant bien le propos de l'apôtre Paul, arrivant au terme de son ministère et même au terme de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai suivi la route, j'ai gardé la foi, ceci par la grâce de Dieu. Amen.